Donc, en écoutant Monsieur Florian Michel de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, qui va nous parler de quelqu'un qui croyait certainement et qui avait de bonnes raisons de le croire, qu'il était possible de converser avec Thomas d'Aquin et de le persuader de la justesse de ses propres théories, à savoir Étienne Gilson, qui a été le titulaire de la chaire d'histoire de la philosophie du Moyen-Âge, ici même au Collège de France, devenu 50 ans plus tard, selon donc une périodicité, je dirais, lourde, histoire de la philosophie médiévale. Donc je suis très heureux de donner la parole à Florian Michel, qui est engagé par ailleurs dans le projet au long cours d'une édition des œuvres complètes d'Étienne Gilson.
Très bien, merci Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, c'est avec une réelle imprudence et une assez grande liberté que je voudrais évoquer la figure d'Étienne Gilson, le philosophe et le grand historien de la philosophie médiévale qui enseigna en ces murs de 1932 à 1950. La question que je voudrais traiter et qui va faire écho à un certain nombre de réflexions que l'on a eues jusqu'à présent, et vous allez voir assez simple dans son énoncé. L'histoire des idées, telle que Gilson la conçoit, peut-elle échapper aux reproches à la fois des historiens, selon lesquels l'histoire des idées serait aristocratique, asociale, hors sol, comme on dit aujourd'hui, et en même temps aux reproches des philosophes, pour lesquels l'histoire de la pensée médiévale serait soit une perte de temps, soit, en un tout autre sens, l'école du vice relativiste. Ces reproches, trop historiens pour les philosophes, trop philosophes pour les historiens, ont été formulés contre Gilson par d'éminents représentants des diverses disciplines, de Lucien Febvre à Jacques Maritain, de Jean Val à Léon Brunswick ou Maurice Halbwax. Et tous ces reproches, à mon sens, pourraient procéder d'une même conception de l'histoire pour l'histoire, c'est-à-dire d'une histoire d'historien qui concevrait le champ historique comme un vaste cimetière enclos, la formule est de Gilson, et d'une histoire des idées qui serait conçue sur un mode purement historiciste. Contre l'histoire pour l'histoire, la dernière page d'Héloïse et Abélard de Gilson en 1938 lançait un avertissement. « Nous étudions l'histoire, dit, écrit Gilson, pour sauver du néant tout le passé qui s'y noierait sans elle. C'est pour faire que ce qui sans elle ne serait même plus du passé renaisse à l'existence dans cet unique présent hors duquel rien n'existe. » Au sujet de l'historicisme, je voudrais évoquer un autre passage de Gilson, un entretien en 1925, où Gilson expliquait fortement « Je refuse d'écrire l'histoire des idées en fonction de leur seul contenu. » Je n'introduis donc pas l'historicisme en métaphysique, je m'efforce d'éviter le métaphysicisme en histoire. C'est tout différent. Avec l'histoire des idées, donc, telle que Gilson la conçoit, on est là, me semble-t-il, sur une ligne de crête assez délicate. Et dès maintenant, je voudrais dire que la question ainsi posée par l'historien que je suis me semble plus sûre que les réponses que je vais proposer, et elles ne sont pour moi rien d'autre que des hypothèses d'un travail en cours, que je partage donc bien volontiers avec vous, recevant d'avance toutes vos suggestions. Mon propos sera articulé autour de trois grands moments. Le premier moment sera une invitation à tenir l'œuvre de Gilson pour une œuvre ouverte, dont le ressort principal est une passion amoureuse. Cela peut surprendre, mais j'essaierai de vous en convaincre. « Aime et sois historien », nous dit Gilson. Pour que le passé existe de nouveau, dans sa complexité individuelle et concrète, il suffit, écrit-il, de l'aimer. Le deuxième moment présentera Gilson comme maître mondial, je reprends la formule de Paul Vigneault, maître mondial de l'histoire des idées, et maître au double sens, c'est-à-dire à la fois comme exemple et comme suggestion de recherche. Comment Gilson est-il devenu l'historien de la philosophie qu'il fut? Comment pense-t-il la discipline de l'histoire des idées? Et quels en sont les usages, puisque c'est une histoire qui est tout à fait sensée pour Gilson. Le troisième moment sera une étude de cas, je voudrais examiner Gilson, historien de la Cité de Dieu, et commenter notamment la lente rumination des métamorphoses de la Cité de Dieu, paru chez Vrin et à Louvain en 1952. Le thème occupe Gilson, en fait, depuis les tranchées de Verdun en 1915-1916, jusqu'à la seconde moitié des années 50. Et ce sont donc ces métamorphoses que je voudrais évoquer. Et ce sera l'occasion pour moi également d'apercevoir la réception du volume par les historiens, et notamment par Lucien Febvre, qui se sert des métamorphoses comme d'un prétexte pour, je le cite, une mise au point de méthode. Sur l'écriture gilsonienne de l'histoire, à mon sens, une relecture s'impose, à partir de l'entretien que Gilson passe dans les Nouvelles littéraires en 1925. Gilson y rappelait son attachement à la vie et au temps présent. « J'aime mon temps, écrit-il, je l'aime d'un amour tel que même après avoir vu tomber mes camarades à Verdun et les petits-enfants mourir de faim au nom du progrès à Odessa et à Saratov, je ne parviens pas à en désespérer. » Gilson rappelait les liens d'étroite circulation entre le passé et le présent, a expliqué Malebranche avec Proust. Saint Bonaventure a été prisonnier en Allemagne avec moi. Il expliquait également, et c'est cela qui m'importe le plus ici, qu'il n'y a pas plus d'historiens, je le cite, que de savants impassibles. Ce qui importe, c'est de savoir si la passion qui meut un historien est de nature telle qu'elle l'incite à l'étude des faits ou qu'elle l'empêche au contraire de les apercevoir. Maritain ajoutait un élément au questionnement lorsqu'il soulignait que Gilson était un historien sans procédé antiseptique, sans acide phénique, gants de caoutchouc, gaz sur le nez. Un historien réaliste, un historien péguiste, qui touche le réel à pleine main. Pierre Ménard, l'un des éditeurs de Jean Bodin et d'Erasme, dépeignait Gilson sous les traits d'un superbe baron médiéval qui s'est taillé un fief important dans le domaine des idées et qui s'en va tous les printemps guerroyer jusque dans le domaine des cartésiens ou aux frontières des contrées de la Renaissance. Passion historienne, réalisme historique, sens de la bataille, Gilson pose à son biographe une série de questions qui sont d'ordre, me semble-t-il, anthropologique. Il faut saisir cette passion gilsonienne pour ne pas se méprendre sur le sens du travail de Gilson et ne pas être conduit à distinguer deux Gilson, le professeur d'université et l'intellectuel engagé. Maurice Albwachs, faute de distinguer cette passion, et peut-être, c'est une suggestion un peu par jalousie, en donne un portrait vitriolé et traite Gilson de gamin, je cite, de gamin parisien rouspéteur dans son journal de campagne au Collège de France, lui reprochant, par contresens, point d'interrogation, de prêcher aux catholiques de France l'émigration à l'intérieur. En 1935, Lucien Febvre traite en privé Gilson, je le cite, de fou, et considère qu'il a donné à l'université de Strasbourg, donc en 1919-1921, ses dernières meilleures années. Quant à Marc Bloch, il reproche à Gilson une forme d'ignorance volontaire et s'interroge, le terme me paraît tout à fait intéressant, sur la soudure dans l'œuvre de Gilson entre le savant érudit et l'intellectuel catholique. Mon hypothèse est que sous la plume de Gilson, l'érudition la plus grande est engendrée par une passion, la passion de l'unité et de la continuité, qui, mise au service de l'intelligence du temps présent, est jointe à ce que Maritain décrit comme une forme d'impetus vehemens et concessens, est la marque de l'écriture gilsonienne de l'histoire des idées. Imprudence et liberté, disais-je, pour introduire cette communication, les deux termes sonnent peu gilsoniens en apparence, et pourtant ils me semblent extrêmement pertinents pour caractériser l'attitude historienne et intellectuelle de Gilson. Ce dernier a été triplement marqué à la fois par la crise moderniste qui agite l'Église catholique au seuil du XXe siècle, la sécularisation forcée des cadres philosophiques de l'université et par la Première Guerre mondiale qui le vaccine à tout jamais contre l'idée de progrès. Gilson ne cesse de dénoncer les censures, qu'elles soient ecclésiastiques ou étatiques, il ne cesse de dénoncer les illusions modernes, les illusions rétrospectives, et pour cela je voudrais citer une lettre de Gilson à son vieux maître Lévi-Brul, Lucien Lévi-Brul. Il écrit en ce sens en 1924 « Je suis parti en Italie 100 fois dans le progrès de l'homme, j'entends de la nature humaine. Je suis revenu de Paestum, de Pompéi et du musée des thermes de Dioclétien, convaincu que nous avons rétrogradé. Je ferai un très mauvais rédacteur pour le quotidien, c'est trop évident. » La réflexion sur Paestum, le passe ensuite dans cet entretien de presse de 1925 que j'ai déjà cité. « Je ne saurais oublier, écrit Gilson, qu'avant l'homme moderne, il y a l'homme tout court, celui dont les exigences esthétiques sont aussi pleinement comblées par Paestum ou le Parthénon que le furent celles des architectes qui construisirent ces temples. Pour que tout regard jeté en arrière fût une absurdité, il faudrait pouvoir affirmer que l'humanité demeure constamment au niveau le plus élevé de cet homme-là. Or, ce que l'expérience démontre, au contraire, c'est que l'humanité s'oublie souvent, comme il arrive qu'un individu déchoie de soi-même, et que son premier devoir soit alors de se recueillir pour se retrouver. » De Gilson, on apprécie l'humour. Tout cela peut être perdu dans les temps, et il me paraît tout à fait important de le ressaisir. On apprécie l'humour, on apprécie la joie de vivre, on apprécie l'espèce d'allégresse qui le porte, cette espèce, comme dit Henri Gouillet, de bonne santé contagieuse. Pour Gilson, il existe un huitième péché capital qui est la tristesse. Il est reçu sous la coupole de l'Académie par Pasteur Valéry Radeau en ces termes. « Vous avez gardé le bon rire de vos 16 ans, ce rire clair, éclatant de candeur, qui illumine votre visage. Heureux les hommes qui, arrivés au sommet de leur carrière, n'ont pas perdu la fraîcheur de sentiments de leur première jeunesse, qui sont encore capables de se donner tout entier à la joie, à l'enthousiasme et à la passion. » Gilson a également toute la véhémence des imprudents. Je pourrais vous donner un certain nombre d'exemples de cela, je ne vous en donnerai que deux. Il est prisonnier à la bataille de Verdun en février 1916, il est enterré dans sa casemate par un obus qui vient d'éclater à côté, et ce sont les Allemands qui le déterrent, et aux soldats allemands qui le libèrent, mais pour l'emprisonner, il lui dit « Guten Morgen, wir sind keine Barbaren ». L'autre exemple, il y en a vraiment un grand nombre dans l'histoire personnelle de Gilson, mais un autre qui me paraît tout à fait intéressant, dans un journal en 1934, un journal qui est lu par la plupart des évêques de France, il publie un article, « Le culte de l'incompétence » pour dénoncer le niveau dans les institutions catholiques. Voilà un petit peu qui est Gilson, et il a le sens de prendre à brousse-poil un certain nombre de son lectorat. Il est temps, en conséquence, me semble-t-il, de dépoussiérer un petit peu son personnage, trop sagement peut-être rangé au rayon du néotomisme ou de la philosophie chrétienne, ou considéré avec une trop grande révérence comme le docteur Livingstone de la philosophie médiévale, l'inventeur d'un continent, titre Le Monde en 1978, mais dont la cartographie pionnière et les repérages seraient désormais irrémédiablement périmés. Pour revisiter l'œuvre de Gilson, le premier point, me semble-t-il, serait de la tenir pour une œuvre ouverte. Cela pourrait relever de la simple prudence épistémologique, puisqu'il y a tout de même 250 notices sur le catalogue de la BNF, et pour le malheur de ceux qui travaillent à ses œuvres complètes, plus de 800 items dans sa bibliographie personnelle. Dizaines d'ouvrages, des centaines d'articles, etc. Je ne dis rien de la correspondance dispersée. Si cet argument de prudence épistémologique ne suffisait pas, je puis en ajouter encore deux autres. Gilson lui-même envisageait le dépassement de ses propres analyses. Il écrit ainsi en 1947 à un jeune collègue « Je ne m'illusionne pas sur ce que nous savons du Moyen-Âge aujourd'hui. Dans 20 ans, nos neveux en connaîtront un autre, beaucoup plus vrai. » Pour lui, un historien des idées n'est jamais qu'un voyageur, un explorateur qui tient un carnet de voyage. Et le récit de ses explorations constitue même cette histoire des idées. Le dernier argument que je voudrais évoquer est en filiation directe avec le théoricien de l'œuvre ouverte qui a été mentionné précédemment. Le sémiologue romancier Umberto Eco, auteur en 1956 d'une thèse sur l'esthétique chez Thomas d'Aquin, adressait à Gilson une lettre après sa soutenance. « Je reconnais en vous un maître qui a influencé beaucoup ma formation philosophique. » Dans l'œuvre ouverte de 1965, Eco rattachait l'esthétique médiévale du calembour joycien de Finnegan's Wake en 1939 au volume de Gilson « Les idées et les lettres » publié chez Vrin en 1932. La préface du roman « Le nom de la rose » en 1980, qui retraçait les origines imaginées du manuscrit d'Adzo de Melk, s'ouvrait ainsi sur un bel hommage au cher et inoubliable Gilson, disparu 2 ans plus tôt. Œuvre ouverte donc, libre, imprudente, iconoclaste en un sens pour son temps, artisan d'une rupture instauratrice, selon la locution classique et souvent employée pour Gilson, c'est tout cela qu'il faut avoir à l'esprit, à mon sens, pour comprendre la conception gilsonienne de l'histoire des idées. À en croire Gilson, sa méthode en histoire de la philosophie n'aurait absolument rien d'original et serait la simple héritière de la discipline enseignée en Sorbonne, et nommément celle de deux de ses maîtres, Lucien Lévy-Brulle et Victor Delbos. Gilson, qui reconnaît souvent ses dettes, pourrait même les exagérer parfois, de peur de passer pour un ingrat. Mais Gilson, en tout cas, s'il y a un fait que l'historien peut établir, n'a aucune dette à l'égard de l'étranger. Ni en Allemagne, que Gilson connaît bien pour y avoir été emprisonné pendant 2 ans et demi, entre 1916 et 1918, ni à l'égard des États-Unis, que Gilson connaît également particulièrement bien, puisqu'il est professeur invité à Harvard à partir de 1926 et enseignera pas loin de 50 ans en Amérique du Nord. J'ai calculé qu'il avait fait 80 allers-retours sur l'océan Atlantique tout au long de son existence. En 1926, Gilson... 80 allers-retours, et retour, hein, donc le pas 160 traversé. En 1926, Gilson est à Harvard comme professeur invité et il écrit ceci à son épouse. « Quant à l'histoire de la philosophie, ici, on n'en voit même pas l'usage. » Perry, un de ses amis et collègues, un disciple de William James, est assez troublé, écrit Gilson. Il pense que trop étudier les systèmes des autres empêche les jeunes de trouver le leur. C'est comme si visiter les musées et étudier les maîtres empêchait de devenir peintre. Tel est le milieu dans lequel je travaille, un désert qui attend d'être cultivé. C'est Harvard. Gilson, dans son autobiographie intellectuelle, explique plus précisément les sources de cette méthode historique. Il commente. Il y avait eu bien de la naïveté dans mes premières décisions d'appliquer simplement à Thomas d'Aquin, à Saint Bonaventure et aux autres théologies du Moyen-Âge les mêmes méthodes que Lucien Lévy-Brulle et Victor Delbos appliquaient à l'étude de Descartes, de Hume ou de Kant. J'ai toujours respecté le principe posé par mes maîtres en Sorbonne que l'histoire de la philosophie ne consiste pas à fabriquer soi-même une doctrine pour l'attribuer aux philosophes dont on parle, mais au contraire, à ne porter à son compte que ce dont on est raisonnablement certain que lui-même la pensée est dit. Renoncer à inventer pour mieux comprendre est une grande règle de la méthode en matière d'histoire des idées. Quels que soient d'ailleurs ses mérites, la scolastique n'a jamais brillé par le sens de l'histoire. Au fond, elle la méprise un peu et s'en méfie. L'Université de France la pratique mieux et l'intelligence de la doctrine de saint Thomas en a largement bénéficié. La nouveauté radicale de Gilson serait donc d'appliquer cette méthode de l'Université de France à un ensemble d'objets philosophiques qui non seulement jusque-là y avaient échappé, mais qui globalement y étaient rétifs. Le comble de l'histoire, si je puis dire, c'est que l'application de la méthode enseignée par les maîtres de la Sorbonne devait précisément remettre en question le contenu même des enseignements reçus par ces maîtres. Gilson souligne cette rupture lors de la rédaction de la conclusion de sa thèse en 1912-1913. « Je me souviens, écrit-il, distinctement du sentiment de crainte que j'éprouvais le jour où, retenant longuement ma plume, je finis par écrire cette simple phrase. Sur tous ces points, la pensée cartésienne marque par rapport aux sources dont elle est dérive beaucoup moins un progrès qu'un appauvrissement. C'était le viol d'une idole, la remise en question d'un dogme de la Nouvelle Sorbonne, la réfutation de cette nuit intellectuelle, depuis les Grecs jusque Descartes, telle qu'elle avait été décrite par Victor Cousin, Octave Hamelin et par tant d'autres. Si l'on commente de manière très simple cette rupture, il me semble que cette rupture initiale n'est en fait rupture que par rapport à une idée fausse. Elle porte au contraire, en elle-même, l'empreinte profonde d'un sens de la continuité historique que Gilson va désormais ériger en méthode pour les années 20 et pour les années 30. On en trouve, et jusqu'aux métamorphoses de la Cité de Dieu, on en trouve des répliques dans d'autres passages de l'œuvre de Gilson, vers le point de jonction entre le Moyen-Âge et la Renaissance, vers Pétrarque, dont la vie intérieure est nourrie de Saint-Augustin, vers Héloïse et Abélard, figures si modernes au cœur du XIIe siècle, vers Rabelais, lecteur des médiévaux et de Duns Scot, mais aussi, l'autre point sur lequel travaille Gilson, entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, et c'est encore Héloïse qui récite la pharsale de Lucain en s'avançant vers l'autel lors de sa prise de voile, Saint Bernard humaniste, qui a renoncé à tout sauf à l'art de bien écrire, ou à Roger Bacon, commentant pour le pape les grands textes de Sénèque. Gilson porte une attention soutenue au maître carolingien, et notamment à Alcuin, qui est l'homme de la translatio studii, et cette translatio qu'est-elle, sinon le mécanisme même d'une continuité dans la rupture, continuité dans l'étude, rupture dans la géographie. avec évidemment tous les déplacements et glissements suscités par cette translation. Mais le thème me semble même lui-même un des éléments marquants de la méthode de Gilson. Alcuin, dans ses dialogues avec Charlemagne, rappelait ainsi combien, en comparaison de l'Antiquité, le temps du grand Carolingien, lecteur de la Cité de Dieu, était plus à plaindre qu'à admirer. Plus miserandi quam mirandi sumus, rapporte à plusieurs reprises Alcuin, cité par Gilson. C'est certainement dans la série de conférences rassemblées sous le titre « Les idées et les lettres » que la méthode de Gilson est la plus démonstrative. Humanisme médiéval et Renaissance, Rabelais franciscain, où Gilson tord le cou à Abel Lefranc, professeur au Collège de France et éditeur d'un Rabelais modernisé à l'excès par pure ignorance du Moyen-Âge. Notons au passage que Lucien Febvre, dans son volume de 1942 sur « La religion de Rabelais », reconnaît la parfaite justesse des positions de Gilson, signe d'un dialogue tout de même entre historiens et philosophes, et historiens des idées. Gilson concluait ce volume par un article intitulé « La scolastique et l'esprit classique » et on y trouve une véritable déclaration de méthode. Je cite Gilson, « Les compartiments arbitraires que nous inventons pour isoler les unes des autres les grandes époques de l'histoire de notre art et de notre pensée ne sont, en général, que la projection dans le passé de nos haines secrètes et de nos préférences présentes. Nous voulons qu'aient été séparés ceux de qui nous nous séparons, afin de nous séparer plus sûrement de ceux qui s'en réclament encore. Au lieu d'introduire par violence dans le passé nos divisions, il serait peut-être plus sage de partir de l'unité de notre commune histoire pour y prendre conscience de l'irréelle vanité de nos divisions. L'étude ainsi conduite n'en serait plus bienfaisante que parce qu'elle serait plus vraie. Nous n'avons pas trop de tout ce qui nous a fait ce que nous sommes pour continuer d'être nous-mêmes, etc. etc. » Gilson de plaider pour finalement s'adosser à l'arbre tant que la sève coule. Ce récit assez fluide et parfois métaphorique que Gilson propose de son propre parcours et de l'esprit de son œuvre, il me semble qu'il faut le rendre un peu plus complexe. Gilson est devenu l'historien de la pensée médiévale, qu'il fut, non bien sûr par une forme d'opportunisme, une méthode solidement éprouvée, celle de la Sorbonne, une belle terra incognita que ses maîtres lui avaient désignée, mais parce qu'il cherchait profondément une double solution, une double échappatoire à la crise aiguë que fut pour sa génération le modernisme catholique et la crise de l'enseignement de la philosophie dans le premier tiers du XXe siècle. « Non, je t'assure, écrit Gilson au sujet de sa jeunesse, ce n'était pas gai. C'était le temps de la grande famine philosophique. Nous avons bien failli en mourir. On mangeait n'importe quoi pour tromper sa faim, au risque de s'empoisonner. Ce qu'on a pu nous offrir de Saint-Augustin, frelaté, épicé de Descartes et de Kant, jusqu'à Comte, dont on a voulu utiliser les restes. Si j'avais su, et ajoute-t-il en 1932, si j'avais su ce que je sais quand j'étais jeune, je n'aurais pas perdu mon temps à enseigner l'histoire de la philosophie. J'ai enseigné l'histoire de la philosophie pour apprendre la philosophie. Tu sais bien que lorsque l'on ignore quelque chose, la vraie manière de l'apprendre est de l'enseigner. » Le terme « échappatoire » est employé par Gilson dans son autobiographie intellectuelle. Après avoir décrit l'université de ses maîtres, dominée par les Durkheim, les Mauss et les Lévi-Brulle, sur fond de néo-kantisme sociologique et d'un positivisme dit absolu qui tronque la moitié des auteurs sur lesquels il travaille, et après avoir souligné qu'il n'avait pas moyen d'enseigner la métaphysique et la philosophie générale, Gilson de conclure. Il fallut donc chercher une échappatoire. On la trouva dans l'histoire de la philosophie. Pourquoi ne pas demander à Platon, à Descartes et aux autres grands penseurs d'autrefois la manière de poser les problèmes métaphysiques et de les résoudre. L'historien de la philosophie était désormais chargé d'entretenir une sorte de cimetière où reposeraient des métaphysiques mortes, donc désormais inutiles et de purs objets de souvenirs. Notre ami, le professeur Bush de l'Université Columbia de New York, avait un mot charmant pour désigner ce genre de recherche, « mental archaeology ». Ce que, évidemment, Gilson n'entend pas faire, puisqu'il refuse d'être un guide de cimetière. Au sujet de la Sorbonne, je passerai rapidement sur cet article de mars 1934 qui est publié dans un journal dominicain qui s'intitule 7. Gilson était plus précis dans cet article-là au sujet de Victor Delbos, qui est l'un de ses maîtres, sur lequel il a des formules à la fois pleines de louanges et assez critiques. Par exemple, quand il rapporte cet échange qu'il a avec Delbos, pour qui on vient de créer une chaire de philosophie et d'histoire de la philosophie en Sorbonne, Gilson de lui dire « Enfin, vous allez donc pouvoir nous parler en votre propre nom. Nous allons avoir un enseignement qui portera sur la philosophie même. N'en croyez rien, » répond Delbos. « On ne m'a confié cet enseignement qu'à la condition expresse que je ne parlerai jamais de philosophie. C'était à prendre ou à laisser. J'ai accepté, etc. etc. » Et c'est dans cette page de 1934 que Gilson revient sur commence à préparer cette notion d'archéologie mentale comme un catalogue d'erreurs humaines, etc., etc., car, dit-il, il ne suffisait pas à cette histoire de la philosophie d'être objective, c'est-à-dire de ne pas s'intéresser à ce qu'elle racontait, il lui fallait encore être critique, etc. Et Gilson, naturellement, refuse cette position qui consisterait à fossiliser les philosophes examinés. Cela ne va pas manquer de produire un certain nombre d'étincelles avec ses collègues de l'université, et à deux reprises, on trouve dans ses écrits mention de ces disputes amicales entre collègues. Ainsi, dans son autobiographie intellectuelle, Gilson écrit « Alors que j'étais devenu professeur en Sorbonne, l'un d'eux devait me convoquer pour une communication importante. On lui avait rapporté que j'abusais de mon enseignement de l'histoire, des philosophies médiévales, pour me livrer à une propagande déguisée. La question me laissa pantois. Je n'ai jamais conçu l'histoire des doctrines que comme un effort pour les faire comprendre. Et comment montrer qu'une philosophie est intelligible sans la justifier ? Ne sachant que répondre, j'offris aussitôt d'échanger à la première occasion ma chaire d'histoire de la philosophie médiévale pour une chaire d'histoire de la philosophie moderne. Il ne fut plus jamais question de rien. » Gilson plaisante à plusieurs reprises, disais-je, sur le sujet, et notamment dans un texte qui s'intitule « Examen de conscience », publié en 1932. Ce texte, j'avais la tentation de vous en citer de larges fragments, mais je n'ai retenu que ce court passage, se présente comme un dialogue entre Gilson et son directeur de conscience, pour ainsi dire. « Mais mon bon ami, lui dit ce directeur, le style en moins, c'est un appendice philosophique au génie du christianisme que tu es en train d'écrire. Si c'est cela que tu veux faire, pourquoi soutiens-tu que tu n'es pas un apologiste ? Tu ferais mieux de le dire franchement. » Réponse de Gilson. « Si je le dis, on va m'objecter que je ne suis pas un historien et que je fausse les faits pour en tirer une apologie. Mais pourquoi, diantre, tiens-tu si fort à passer pour un historien ? Parce que, répond Gilson, si je ne suis pas un historien, je ne serai jamais un apologiste. » L'apologie est ainsi pour Gilson un produit naturel d'une bonne et sérieuse histoire qui, pour Gilson, vérifiant ici l'un des principes de Saint-Justin, Gilson est convaincu que tout ce qui est vrai est catholique et d'une certaine manière, l'histoire n'est pas un terrain de perte, mais au contraire de vérification. On peut donc conclure que Gilson n'entérine en aucun cas les prudences de ses maîtres de Sorbonne et qu'au contraire, Gilson s'inscrit en porte-à-faux contre une partie de l'héritage qu'il a reçu. Je vous épargne la démonstration, mais on pourrait faire rigoureusement le même type de raisonnement pour tout ce qui concerne les maîtres d'église. Gilson a été formé dans une boîte à curés, comme dit Maurice Halbwachs, avec sympathie, et on trouve tout un tas de témoignages sous la plume de Gilson où précisément il dénonce l'enseignement qu'il a reçu. Je vous ai mis là le culte de l'incompétence de 1934, et Gilson décrit l'enseignement donc de ses maîtres en histoire. Les plus surprenants étaient les professeurs d'histoire. Pendant 7 années d'études, j'en ai eu un et un seul qui se fut jamais occupé d'histoire avant de l'enseigner. Je m'en souviens encore, c'était en seconde, et ce fut pour moi un éblouissement. Pour les autres, c'était bien simple. On avait choisi comme professeur d'histoire l'un de ceux qui avait obtenu le premier prix d'histoire dans la maison avant d'entrer au séminaire Saint-Sulpice. Ils apprenaient 15 jours d'avance le manuel qu'ils mettaient entre les mains et les résultats étaient ce qu'ils pouvaient. Cette démonstration, on peut donc la pousser plus loin sur ce culte de l'incompétence à l'égard non seulement de ceux qui diffusent l'euthomisme à la veille de la Première Guerre mondiale. À plusieurs reprises, Gilson s'en prend à un certain père Pedro Descoques, proche de l'Action française, et il y a là des pages assez violentes. Mais Gilson s'en prend de manière symétrique au père Lucien Labertonnière, dont il est très proche, dont il a suivi les enseignements, On a un certain nombre de témoignages dans sa correspondance, dans son autobiographie intellectuelle, sur précisément l'incompréhension qui l'oppose au père Labertonnière. Juste un exemple, dans une lettre de Gilson à Henri Gouillet de 1932, « Le père Labertonnière m'a fait beaucoup de bien par sa charité et beaucoup de mal par le dérèglement de sa charité qu'une méconnaissance profonde de la tradition chrétienne a toujours coupé de son objet. » Ni tout à fait de Sorbonne, ni tout à fait d'Église, la méthode de Gilson est donc singulière, précisément à ce qu'elle est une réponse à une double contrainte, née en Sorbonne et née dans les débats d'Église. Il y a chez Gilson, me semble-t-il, un héritier insatisfait de l'héritage transmis. Il l'écrit ainsi à Gabriel Marcel en 1930, « Je muse à reconquérir des évidences que l'on aurait dû tenir à notre disposition lorsque nous avions 18 ans. » En un sens analogue, Gilson cite en allemand le Faust de Goethe sur la première page de la cinquième édition du Thomisme, l'édition du temps de la Seconde Guerre mondiale. « Was du erirbt von deinen Vätern hast, erwirbes, um es zu besitzen. » Je traduis rapidement, « Ce que tu as hérité de tes pères, conquiers-le pour le faire tien, pour le posséder. » Les travaux de Gilson en histoire des idées s'inscrivent à mon sens dans cette dynamique de ressaisie d'un patrimoine philosophique et spirituel que par oubli, par négligence, par mauvaise volonté, par préjugé, par ignorance volontaire, la modernité et le modernisme ne lui avaient pas transmis. De cette méthode de Gilson en histoire des idées, l'ouvrage intitulé « Les métamorphoses de la cité de Dieu » me semble un exemple tout à fait éloquent. Il ne s'agit pas d'une histoire des idées à la manière de la Sorbonne, mais d'une histoire tournée vers le temps présent. Et à l'horizon de l'ouvrage, et notamment dans le dernier chapitre, c'est toute la question européenne, le communisme, l'existence de cette société universelle à laquelle l'humanité aspire aujourd'hui. L'ouvrage retrace ainsi en 300 de pages presque 20 siècles de l'histoire de la cité de Dieu, de l'idée de la cité de Dieu, depuis saint Paul et la lettre à Diognète, jusqu'à Staline, qui sera momifié l'année suivante, donnant raison d'une certaine manière à Gilson. Lors de la publication du volume en 1952, le point importe, Gilson a 68 ans, il est veuf, il est retiré du Sénat, retraité du Collège de France, il est dépressif, il faut le dire. Il sort à peine de cette pénible affaire que l'on appelle l'affaire Gilson au sujet de son neutralisme, où il avait reçu de manière assez curieuse le soutien des communistes contre d'une part Le Figaro et Raymond Aron et contre d'autre part le parti des épurés de l'Action française qui tient Gilson pour un nouvel âne de Buridan, n'arrivant pas à choisir entre les États-Unis et l'URSS ou le représentant comme un lièvre fuyard partant se réfugier au Canada. Cette attitude de refus de la guerre froide, qui est le contexte immédiat des métamorphoses de la cité de Dieu, n'est pas sans écho, me semble-t-il, dans l'œuvre de Gilson, qui mène précisément un ensemble de réflexions sur l'unité du genre humain et l'existence d'une société universelle. Les métamorphoses me semblent l'ouvrage, au-delà de ce contexte immédiat, d'une réelle maturité. Gilson y reprend une problématique dont il a l'intuition depuis la Première Guerre mondiale, dont il a livré un certain nombre de synthèses en 1933 à ses étudiants de Toronto, en 1942 aux bénédictins de la Pierre qui vire, en 1946-47 aux étudiants de Sciences Po, ici même au Collège de France à la fin des années 40, et enfin en 1952 devant le public de l'Université de Louvain. Chacun des thèmes du volume a déjà été traité également dans les grands volumes monographiques de Gilson. Sur Saint-Augustin, Saint-Bonaventure, Dante, etc., etc. Gilson va récupérer la matière qu'il a déjà analysée par ailleurs. Je ne pointerai que quelques étapes de la maturation du volume. Ça serait vraiment intéressant, à mon sens, d'écrire une histoire globale de ce thème, mais je voudrais juste pointer le commencement. Et il me semble que le commencement, c'est la Première Guerre mondiale. On trouve ainsi dans une lettre du front, en date du 24 août 1915, adressé à Xavier Léon, l'un de ses professeurs de Sorbonne. Inutile de vous dire que je vais bien, il est sur le front. Il est inutile de vous dire que je vais bien, moralement et physiquement. D'ailleurs, on mène une existence très harmonieuse, parce qu'elle est simplifiée. Lorsque je regarde ma vie passée comme pouvant s'achever ce soir, je la vois plus débordante de richesses que telle existence d'un siècle. Je vois le présent avec une âme paisible, car ici le devoir est clair, simple, et n'a pas besoin d'être cherché dans l'angoisse. Reste l'avenir. En y songeant, je ne formule qu'un vœu. Puissent les Français comprendre qu'ils n'auront plus le droit de se haïr sur le sol où nous reposerons. Au lendemain de la guerre, Étienne Gilson écrit encore à Xavier Léon, dans une lettre de 1921. « Vous savez que si je mets un article de philosophie sur pied, il sera pour vous. Je pense à un essai d'histoire des idées qui présenterait, esquissé à large trait, les transformations françaises de l'idée d'humanité. Trois étapes. Je vous épargne la grande description, le Moyen-Âge, la Renaissance, le XIXe siècle. Et Gilson conclut. Ça reprend, c'est programmatique évidemment pour les années 30 et jusqu'à 1952. Gilson conclut cette lettre. « Je crois de plus en plus à la continuité de notre développement depuis le Moyen-Âge et aux transformations successives, mais aussi à l'influence persistante de notre idéal religieux médiéval. Si je puis construire convenablement ce travail, je vous le soumettrai. » Dans les années 20, Gilson n'a pas le temps de mettre à exécution ce programme qu'il esquisse là dans cette lettre à Xavier Léon, et il va donc falloir attendre les années 30, puis les années 40, etc. Ce qui me paraît tout à fait intéressant, c'est quand on reprend chacun des articles de Gilson ou chacune des communications de Gilson sur ce thème des métamorphoses de la cité de Dieu, le manuscrit soit s'épaissit, soit se réduit, on voit des questions rentrer, sortir. Évidemment, en 1933, la question du nazisme, du germanisme occupe une place prépondérante. Dans le cours de Sciences Po en 1946-47, c'est davantage Marx, et dans le contexte de cette très forte présence du Parti communiste dans la vie politique française. Donc on voit un certain nombre d'inflexions au fil des problématiques de l'heure. Les finalités de l'ouvrage, je vais les caractériser très, très rapidement. Il n'est pas de mon propos de présenter toute l'argumentation de Gilson et simplement pointer quelques directions. Gilson s'interroge en introduction sur la notion de chrétienté. Et en substance, la question est la suivante. Que signifie le terme chrétienté aujourd'hui? Est-ce que c'est une question auxquelles les historiens, les philosophes peuvent éclairer les théologiens? Que disent les théologiens de cette notion? Et à partir de là, Gilson va remonter le temps de Saint-Augustin jusqu'Auguste Comte et retour, d'une certaine manière. Et retour est une formule très gilsonienne. Je ne décris pas tout le processus ni toute l'argumentation qui est extrêmement intéressante, simplement pour en arriver à la conclusion de Gilson. Il n'y a plus d'église positiviste, et le rêve de Comte est mort avec lui. Ni l'aristotélisme scolastique offert par Dante à l'ensentiment des hommes, ni la théologie métaphysique de Campanella, ni la métaphysique théologique de Leibniz, ni la philosophie scientifique d'Auguste Comte n'ont pourvu la société universelle du lien nécessaire que dès le temps d'Augustin, la sagesse chrétienne de la foi lui avait immédiatement offert. Il nous reste à tirer la leçon de cette expérience bientôt vieille de 20 siècles, et Gilson de préciser cette leçon. Cette leçon, c'est précisément qu'il n'y a pas d'avatar de la cité de Dieu. Ces métamorphoses de la cité de Dieu, c'est en quelque sorte une histoire de malheur, une histoire de calamité, et il faut à tout prix préserver dans sa justesse cette notion de cité de Dieu, et évidemment, en conséquence, l'ouvrage est parfois mal reçu, j'en ai parlé avec des amis philosophes qui trouvaient que ce côté cimetière des éléphants du volume était parfois franchement un peu difficile à recevoir, puisque tous les auteurs convoqués sont au fur et à mesure réfutés par Gilson. Sur la réception du volume, il n'est guère possible non plus de reprendre tout le dossier. Henri de Lubac, le père Congar, Jacques Maritain, Paul VI, la revue Thomiste, Éric Weil, tous se servent à divers moments, commentent, recensent le travail des métamorphoses. Et je voudrais simplement considérer une seule recension, celle de Lucien Febvre, qui présente en 1954 les métamorphoses pour la revue Les Annales. À travers cette recension, on repère un très net témoignage d'une réelle admiration de Febvre pour Gilson, mais en même temps d'un conflit disciplinaire dont je voudrais préciser quelques contours. Ce conflit disciplinaire n'est pas neuf. Je citais au cours de ma présentation cette lettre de 1935 où Gilson était traité de fou par Fèvre. On pourrait poursuivre tout au long des années 30-40 un certain nombre de réflexions dans les relations entre les deux hommes. Dès 1946, il y a un texte qui est extrêmement intéressant à mon sens, qui s'intitule « Histoire des idées, histoire des sociétés, une question de climat » et qui va être repris ensuite sous un autre titre dans le fameux ouvrage de Lucien Fèvre, « Combat pour l'histoire ». Lucien Fèvre, dans ce texte, recensait la philosophie au Moyen-Âge de 1944. Livre d'importance journalière, explique Lucien Fèvre. Lucien Fèvre, historien, l'épithète revient souvent pour qualifier sa propre position, discutait dans ces pages-là de la pertinence de la contestation des césures proposées par Gilson. Pour Gilson, écrit Fèvre, l'histoire de la philosophie médiévale ne connaît pas de coupure entre le XIIIe et le XIVe siècle. Je comprends certes ces raisons qui sont d'ordre philosophique, mais cependant, historien, je me sens gêné. Le moi historien de Fèvre conteste au philosophe Gilson non pas de dresser les ponts entre les siècles et les disciplines, mais au contraire de ne pas en construire de suffisamment nombreux. Entre l'histoire des idées et l'histoire des sociétés, explique Lucien Fèvre, je ne parle pas de primat, je parle d'interférence, ou si l'on veut de climat. Étienne Gilson a fait effort pour jeter entre l'évolution de la littérature et celle de la philosophie au Moyen-Âge quelques ponts placés à de bons endroits. Il a eu bien raison. Je crois qu'il lui était facile de lancer entre l'évolution politique et économique générale et l'évolution de la philosophie au Moyen-Âge quelques autres ponts qui eussent donné à tous les usagers de son traité une largeur de vue incomparable. Je ne demande certes pas à l'historien des doctrines de s'improviser historien des idées politiques et économiques. Je lui demande de tenir ouverte, toujours, une porte de communication par où le monde des idées puisse reprendre dans nos esprits le contact qu'il avait tout naturellement avec le monde des réalités quand il vivait. En 1954, Lucien Fèvre va reprendre exactement la même ligne critique. Il commence sarcastique par se plaindre de ne pas avoir reçu le volume aux annales. C'est un livre fort, explique Lucien Fèvre, ce livre d'Étienne Gilson. Inutile de dire que les annales ne l'ont pas reçu, etc., etc. Il y a quelques lignes assez savoureuses. Il s'agit d'un livre fort, d'une belle et cohérente tenue. Il s'agit d'un sujet ample, traité avec liberté. Pour Lucien Fèvre, la conclusion de Gilson est une conclusion virile. Et Lucien Fèvre souligne le talent infini de Gilson. Une fois payé un petit peu son écho et une fois ces choses dites, il me semble que Lucien Fèvre peut enfin tomber la cuirasse et émettre un certain nombre de réserves que l'on pourrait peut-être qualifier de corporatistes au nom du vieil antagonisme, je cite Lucien Fèvre, entre l'histoire des historiens et l'histoire des philosophes. Lucien Fèvre reproche à Gilson de mépriser les historiens de plat pays. Il y a une page assez violente dans cette recension de Fèvre. Il reproche à Gilson donc de mépriser les historiens de plat pays en surinterprétant une formule de la préface de Gilson. L'histoire ne fait que raconter le passé. C'est cette petite formule, l'histoire ne fait que raconter le passé, que Lucien Fèvre a commenté pendant quasiment deux pages. Fèvre y voit un manque de respect, une étrange vue de l'esprit, un paradoxe, puisque cette histoire exécutée est, dit-il, la nourriture même de l'histoire intellectuelle qu'écrit Gilson. Fèvre commente dans une syntaxe pour le moins chaotique la citation de Fustel de Coulanges que Gilson empruntait. L'histoire n'étudie pas seulement les faits matériels et les institutions, son véritable objet d'étude est l'âme humaine. Elle doit aspirer à connaître ce que cette âme a cru, a pensé, a senti aux différents âges de la vie du genre humain. Fèvre précise que, comme Gilson, il souscrit naturellement à cette formule, à condition de ne pas la restreindre au monde antique. Fèvre décrit ensuite tout le cheminement de l'ouvrage à travers les siècles. Il pointe les lacunes, il regrette l'absence de Sully, l'absence d'Henri IV dans le parcours, et conclut que le long voyage tourne un peu court. L'auteur vole de cime en cime, de grands esprits en grands esprits. Classique histoire des idées, aristocratique histoire des idées, un livre fort, oui, mais d'une force qui s'achète au prix d'une assez rude simplification. C'est que l'histoire des hommes ne tient pas tout dans le jeu de la pensée. D'une force qui est due à la concentration tout exclusive, sinon arbitraire, d'un cerveau puissant et lucide sur une seule catégorie d'activité mentale et qui laisse volontiers tomber tout ce que le commun des hommes appelle la vie, ici tout spécialement la vie sociale. Lucien Fèvre se répète, on voit bien qu'entre 46 et 54, d'une certaine manière, l'argumentation est la même. Et je dois dire que je ne sais pas si Gilson eut connaissance de ces lignes. ni s'il y répond quelque part dans son œuvre, ni même ce qu'il y aurait répondu s'il ne l'a pas fait. Prompt à reconnaître en l'autre ce qu'il y a de juste dans sa position, Gilson consentirait probablement à certaines critiques et à certaines suggestions. Tenir les portes ouvertes, certes, construire des ponts, bien sûr, mais d'une certaine manière, tout cela demeure très général. Encore faut-il s'entendre exactement sur le sens de l'exercice que Gilson s'était lui-même imposé, qui à nouveau n'était pas de l'histoire pour l'histoire, mais de l'histoire pour penser ce qui était actuel. On cherchera également en vain, dans les travaux de Gilson, un social. L'histoire des idées telle que la conçoit Gilson est-elle pour autant aristocratique ? Le terme me semble un petit peu excessif et peut-être élitaire ou même monacal pourrait suffire pour qualifier cette histoire des idées. Gilson, dans son Institut d'études médiévales de Toronto, entendait bien étudier l'intégralité de la civilisation médiévale et il y a là tout simplement une sorte de répartition des tâches entre les ouvriers. C'est, à mon sens, un petit peu comme si, pour le dire de manière très, très simple, comme si l'on reprochait à un ébéniste de ne travailler que du bois et non pas la pierre ou le métal. Pour conclure ma communication, sans reprendre toutes les critiques énoncées contre l'histoire des idées, critiques évolutives, parce que, par exemple, pour mentionner l'exemple de Maritain est très critique en 1925, 30 ans plus tard, il n'en est plus de même quant à la méthode de Gilson. Donc, sans reprendre toutes les critiques énoncées contre l'histoire des idées telles que Gilson la pratique, je voudrais seulement revenir à la question posée par Marc Bloch en 1935. Où est la soudure dans l'œuvre de Gilson ? Dire qu'il n'y en a pas serait trop commode, remarquait Bloch. La soudure, si elle existe, est à mon sens dans cette présence à la fois déniaisée, sans illusion et passionnée de Gilson, historien et philosophe au temps présent. Très doublement hérité de sa matrice catholique et de sa génération, celle du feu, on sent dans son œuvre ce souci agonal de l'unité du genre humain, de l'expérience globale de l'humanité et de l'élaboration d'une authentique société universelle, ce qui exige l'élimination, parfois un peu violente, de toutes les divisions factices sur les plans politiques, chronologiques ou géopolitiques. Pour penser l'histoire des idées, Gilson exige de nombreux décloisonnements, comme il n'a jamais dit. Décloisonnements disciplinaires, chronologiques, spatiaux. Gilson de rappeler qu'il n'y a plus d'histoire locale, il n'existe plus d'histoire exclusivement nationale, dont les événements intéresseraient un peuple particulier lui seul, en ce sens qu'il en serait seul la cause ou qu'il en subirait seul les effets. Gilson invite, dès les années 20, à penser le cosmopolitisme de la pensée, tout autant que la dénationalisation induite par l'identité chrétienne. On pourra certes toujours regretter que d'autres ponts n'aient pas été bâtis, mais il me semble, pour ma part, historien, que les intuitions gilsoniennes lancées dans l'entre-deux-guerres pour l'histoire des idées me semblent encore aujourd'hui d'une belle et actuelle pertinence pour l'histoire tout court. Je vous remercie de votre attention.